Guadeloupe Première.
C'est dans l'air du temps entre sites, centres et publications. Pourtant, certaines confessions, la loue et la pratique depuis des millénaires. Nous parlons de la spiritualité qui vient du latin spiritus, à savoir esprit. Et c'est le thème de ce nouveau numéro du magazine Focus. Pourquoi cette quête est-elle aujourd'hui aussi ardente au sein de certaines sociétés? La pratique spirituelle apporte-t-elle bien-être et équilibre? Pour y répondre, la psychanalyste Hélène Migerel, qui est notre fil rouge. Bonsoir. Hélène Michel.
Bonsoir.
La spiritualité est un concept plutôt vaste. Comment pourrait-on la définir par rapport à la religion, sachant que les deux sont liés?
Oui, les deux sont liés et en même temps ne sont pas liés. On va commencer d'abord par ce qu'est une religion. On a tendance à se focaliser, quand on parle de religion, sur une seule religion, le christianisme, qui est aujourd'hui la plus connue. Moi, je parle des religions, parce que les religions sont quand même différentes. Les sociétés sont différentes. La religion est partie intégrante de la culture. Alors, je prends d'abord la première définition. C'est un ensemble de croyances et de pratiques plus ou moins organisées, je dis bien plus ou moins organisées, et relatif à une réalité transcendante, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là un dieu ou des divinités. Un dieu qui remplit dans une société donnée des fonctions. La religion remplit des fonctions. D'abord, cette fonction d'intégration, où l'humain se sent à l'intérieur d'un groupe, fonction d'intégration, mais aussi d'intégration sociale. N'oublions pas que la religion maintient l'ordre social. Donc, fonction d'intégration, fonction d'identification. On a ce sentiment d'une identité collective avec une appartenance très forte. Et quelquefois, on verra bien dans l'intégrisme comment cette chose peut être intégrée dans la notion de communautarisme.
Mais comment intervient justement la spiritualité dans tout cela?
L'esprit de la spiritualité intervient de façon, je dirais, moderniste aujourd'hui, parce qu'elle est un peu en retrait de la religion. Vous pouvez avoir une spiritualité, il y a des êtres qui ont une spiritualité avec une religion intégrée, c'est-à-dire avec cette appartenance, et non, il y a d'autres êtres qui font le choix d'une spiritualité où il n'y a pas de notion religieuse. Mais ce qui différencie la religion de la spiritualité, c'est que la religion est une histoire collective où les rites et les rituels rassemblent les humains, alors que la spiritualité est une expérience individuelle volontariste. On choisit à un moment donné d'aller vers tel ou tel courant aujourd'hui dit mouvement religieux, et nous voyons fleurir aujourd'hui avec cette déclivation du catholicisme un recours à ces mouvements religieux de la spiritualité. Il y a des religions sans fondateur et sans magistère, exactement comme dans l'hindouisme. Il y a des religions sans Dieu suprême et sans prêtre dans le bouddhisme. Aujourd'hui, la philosophie orientale a envahi un peu l'Occident. Alors, ce bouddhisme, justement...
On va y revenir parce que nous allons avancer dans ce magazine. Nous avons voulu avoir le point de vue, justement, de l'Église catholique. À bien des égards, elle reste dogmatique et semble figée aux yeux de beaucoup. Invite-t-elle à ce recul au regard de la pratique religieuse? Elle s'est assouplie selon le père Lavital, qui a renvoyé les fidèles à une certaine introspection.
L'Église n'est pas fermée par rapport aux dogmes. Cette spiritualité-là, ben, c'est chacun d'entre nous qui doit chercher à rentrer en relation avec son maître. Lorsqu'on entend parler de spiritualité chez nous, l'Église catholique, pour les fidèles, ben, c'est aller à la messe, c'est prier et rentrer chez soi. Mais cette spiritualité doit aller au-delà de ce que nous pouvons entendre, mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est chaque jour que nous devons vivre cette spiritualité dans nos familles, dans nos relations humaines, dans le travail et puis aussi dans nos communautés chrétiennes. La spiritualité, c'est rentrer en soi-même, de prendre un temps de silence dans tous les lieux de vie.
Comment vous transmettez justement cette spiritualité?
Par le biais des rencontres, des formations, par des conférences que nous faisons aussi dans notre église catholique. Mais faire des conférences, beaucoup ne viennent pas.
De plus en plus de personnes sont en quête. Est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui par l'église n'est pas un peu archaïque?
Le mot archaïque, c'est mot fort. Hein. L'église n'est pas en dehors de la société. Il faut regarder aussi qu'est-ce que propose notre société d'aujourd'hui. Une société qui va mal.
Vous ne vous sentez pas menacé par d'autres églises, d'autres confessions?
C'est normal, hein, s'il y a d'autres confessions qui arrivent. Ça veut dire que l'Église catholique n'est pas le maître de tout. Mais nous avons le devoir aussi de mettre en garde à toutes les formes de dérives qui peuvent emmener nos jeunes ou bien nos familles à la perdition.
Voilà, c'était le père Lavitalia. Visiblement une invitation de la part de l'Église catholique à la quête spirituelle, Hélène Mijerel. Mais les fidèles, dans leur grande majorité, restent très traditionnalistes chez nous, somme toute. Hein.
Ce ne sont pas les fidèles qui restent traditionnalistes. Je veux dire qu'un fidèle suit la voie qui lui est tracée. Par exemple, quand vous avez le chef charismatique qui est le pape et qui fait un certain nombre de déclarations qui donnent, je dirais, les directives à prendre s'agissant de la contraception, s'agissant de l'incinération et de l'illumination. Je veux dire qu'un fidèle, c'est quelqu'un qui va suivre les principes qui lui sont ordonnés. Parce que dans l'Église catholique ou ailleurs, il y a cette notion de soumission. La religion est le support sur lequel on se tient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation possible quand on est un adepte ou un fidèle à une religion donnée. Alors bien sûr, aujourd'hui, est-ce que l'Église a maintenu toute cette notion un peu en dehors de la réalité sociale? Non, elle est obligée de se transformer si elle veut perdurer. Et on voit bien la transformation qui arrive petit à petit avec les pastorales, avec une espèce de séduction, parce qu'il y a une déperdition importante au niveau de la fréquentation de l'Église des pratiquants.
On va aussi voir où vont ces pratiquants, certains d'entre eux. En tout cas, la démarche spirituelle n'implique-t-elle pas une certaine remise en question de soi, de son environnement, de ses habitudes,
absolument,
de la société, du système?
Absolument. Et vous venez d'entendre le prêtre qui dit « Je demande aux gens de faire une introspection, c'est-à-dire un retour à soi-même. » Et on est dans le droit fil de la spiritualité aujourd'hui. Et ce sont des gens qui décident de faire cette introspection. Ça veut dire qu'aller à la rencontre de soi, c'est aussi se permettre d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aider son prochain.
À ce propos, voyons ce qu'en dit le philosophe des religions, Frédéric Lenoir, auteur notamment du Petit traité de vie intérieure.
Il ne faut pas limiter la connaissance de soi à une forme quelconque d'introspection psychologique. Il peut y avoir des formes très diverses de connaissance de soi. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est par le fait qu'on va tourner le regard vers soi-même qu'on va finalement pouvoir rentrer sur un chemin de sagesse, puisque nous avons expliqué déjà que ce qui est le point commun de toutes les sagesses du monde, c'est de dire que la quête de la sagesse est la quête d'une vie bonne, d'une vie heureuse, et qui passe par la conversion du regard. Et que la conversion du regard, ce n'est plus simplement recevoir le réel à travers le filtre de notre ego, qui fait que nous sommes toujours attirés par certaines choses et que nous avons de la répulsion pour d'autres choses. C'est pouvoir transformer nos pensées, pouvoir transformer nos croyances, pouvoir travailler sur nos émotions, pouvoir travailler sur nos passions, pour finalement accéder à cette liberté intérieure qui nous permet d'accepter le réel tel qu'il est. Et donc la connaissance de soi a cette double dimension de connaissance de ce qu'est l'être humain dans sa complexité, et on va en parler, mais aussi la connaissance de notre propre caractère, de notre propre tempérament, de notre propre personnalité. Et dans cette individualité, il y a à comprendre ce pourquoi nous sommes faits et comment on peut essayer d'y arriver dans notre problématique personnelle. C'est pour ça que ce travail de connaissance de soi peut emprunter aussi bien à la spiritualité qu'à la psychologie, qu'au travail sur les passions. Donc il y a plein de méthodes, d'outils très divers qui permettent d'arriver, je dirais, à cette conscience éclairée que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Plus on avance dans un chemin spirituel, plus on découvre que notre identité profonde ne se limite pas à cet ego et que l'ego est même une illusion qui nous empêche d'avancer, qui fait qu'on est ballotté par les événements de la vie.
Frédéric Lenoir, interrogé par Leïli Anvar dans le cadre de l'émission Les Chemins de la Sagesse, diffusée sur France Culture.
Focus, Colette Borda.
Alors pour ceux qui, en tout cas, entreprennent cette démarche spirituelle, qu'est-ce qui, selon vous, les conduit à ce désir d'élévation, en fait, de l'esprit? Qu'est-ce qu'ils cherchent?
Ils cherchent avant tout un épanouissement de soi. Même si cette dimension religieuse n'apparaît pas dans leur spiritualité, ils utilisent une croyance qui est peut-être un être transcendant, mais esprit, non pas une personne, mais l'esprit, tout simplement, et la force. La spiritualité, c'est un développement personnel à la recherche de soi-même, la quête du sens, la quête des origines. Parce qu'aujourd'hui, il y a, quand on compare le religieux au non-religieux, il y a une confrontation s'agissant de la création du monde. Le religieux vous dit que c'est Dieu qui a créé toute chose. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé les êtres différents. Alors que le non-religieux, il est là dans la science. Bien que le religieux ne contrarie pas la science. Je le souligne, hein, nous ne sommes pas dans le même domaine, je dirais, de réflexion. Et pour le scientifique, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. C'est tout simplement, il y a une évolution. Quand on regarde les thèses de Darwin, qui sont quelquefois remises en question, il y a aussi le Big Bang. Enfin, la question pour le scientifique, qui est un pratiquant? Comment il fait avec ces deux versants de connaissances? Est-ce qu'il va beaucoup plus être partie prenante de sa pensée religieuse? Est-ce qu'il va, à ce moment-là, avoir un raisonnement scientifique? Et c'est là où cette spiritualité va peut-être permettre une espèce de conciliation.
Alors aujourd'hui, pléthore de méditations, de prières, de retraites sont proposées, et pléthore de sites internet également. Nous voyons émerger des gourous, des coachs, des centres d'enseignement. Hélène Migerel, car il y a une demande visiblement. Comment expliquer cet engouement qui touche de plus en plus, notamment la Guadeloupe, même s'il s'agit, il faut le dire, surtout d'un public privilégié?
Certainement, ce sont des personnes qui ont un statut social assez élevé, qui peuvent se permettre de s'intégrer dans ces mouvements religieux qui sont devenus de vrais multinationales.
Mais pas forcément religieux, parce qu'on est dans la spiritualité.
Ces mouvements sont appelés mouvements religieux.
Vous les appelez aussi mouvements religieux.
Mouvements religieux. Dans l'anthropologie des religions, dans la sociologie des religions, c'est le terme consacré. Dans les mouvements religieux, vous avez toujours celui qui a créé le mouvement et qui va effectivement mettre dans ce mouvement religieux qui est de la spiritualité ses propres pensées. Quand on voit par exemple la scientologie qui aujourd'hui s'étend de par le monde, cette scientologie qui a comme principe de base la dianétique. La dianétique va dans le sens de la spiritualité où les gens sont dans une quête de sens. Que propose la dianétique? La dianétique propose d'abord une espèce de regard psychologique en disant le cerveau fonctionne comme un ordinateur. En deuxième lieu, il y a à ce moment-là là, une méthode de gestion des émotions avec même l'électromètre qui va mesurer les décharges émotionnelles et puis tout simplement un développement personnel.
Mais est-ce qu'au niveau de la société, qu'est-ce qui explique tout cela, cet engouement, cet intérêt aujourd'hui pour la spiritualité? Est-ce que la société ne donne plus des réponses? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'être un peu plus détaché du matériel?
L'Église ne donne pas, l'Église catholique ne donne pas entièrement satisfaction à une certaine frange de la société.
Pas seulement catholique, puisqu'il y a aussi d'autres confessions.
Oui, il y a d'autres confessions. Mais je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, toute cette spiritualité tend à intégrer la religion bouddhiste, qui, en fait, je viens d'en parler, n'a pas de maître et n'a pas, effectivement, une assise précise. La religion bouddhiste, en fait, est un art de vivre, une philosophie qui s'intègre au social et avec des préceptes qui sont plus ou moins respectés et non pas contrôlés. Et dans tous ces mouvements religieux, vous retrouvez ces principes bouddhistes qui sont là en permanence.
Justement, on est un peu sur cette pensée-là. En quête de hauteur, certains n'hésitent pas à chambouler leur vie. C'est le cas de Françoise Troplan, architecte de profession d'éducation catholique. Il y a 9 ans, elle a été séduite par les pratiques tibétaines. Écoutez son témoignage.
« J'ai eu un ras-le-bol. Peut-être parce que j'ai trop travaillé, peut-être parce que j'ai travaillé beaucoup avec les élus et que c'est pas facile. J'ai ressenti peut-être un manque de reconnaissance à un moment pour ce que je donnais. Et j'ai eu besoin de couper et de rendre service puisque je travaillais, mais je n'oubliais pas de faire beaucoup de sport, notamment de compétition. Moi, j'avais manqué de produits pendant toute mon activité sportive et j'ai eu besoin de rendre ce service aux femmes sportives. Donc, j'ai monté un magasin de sport pour les femmes. Voilà. Et c'est ce magasin de sport qui m'a amené à une rencontre qui a changé ma vie, qui m'a ouvert sur, je dirais, d'autres outils, une nouvelle spiritualité, mais qui est très simple en vrai. C'est une spiritualité qui ne consiste pas à délaisser tout le côté matériel de notre vie, mais au contraire à chercher un équilibre entre le matériel et l'esprit.
Comment vous vivez cette nouvelle spiritualité? Quelle est donc cette nouvelle spiritualité?
Cette spiritualité que j'ai découverte, elle a pour origine le Tibet, qui s'exerce à travers différentes pratiques. La première pratique que j'ai découverte, c'est la pratique du feng shui tibétain. La pratique de la numérologie tibétaine aussi, la pratique du yin, qui est un art divinatoire, et la pratique des mantras et des sons. On est énergie, tout notre corps est énergie. Les sons sont aussi une énergie, et c'est une énergie très puissante pour se soigner, pour retrouver son équilibre. Dans le feng shui tibétain, ou le feng shui d'une manière générale, la première chose que l'on doit faire le matin, c'est s'occuper de soi. Parce que dans la journée, ce que vous n'avez pas fait pour vous, personne ne pourra le faire à votre place. S'occuper de sa famille, aller gagner sa vie, et ainsi de suite. Donc quand on pratique le feng shui dans l'ordre, eh bien, on peut passer une journée relativement paisible. Dans cet ordre du feng shui, il y a aussi des phases de repos, de retour à l'équilibre, qui sont essentielles. Et aujourd'hui, on a perdu l'art de ne rien faire. Moi, je vois comment on malmène les enfants aujourd'hui, parce qu'on va projeter tous ces fantasmes sur les enfants. Et les enfants, aujourd'hui, n'ont plus le droit de ne rien faire.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux?
Je me sens mieux, même si chacun d'entre nous a des épreuves karmiques. Mais ces leçons, elles sont à apprendre de toute façon.
Voilà, Françoise Troplan est revenue à l'architecture, métier qu'elle gère aujourd'hui différemment, à plus petite échelle et au service des particuliers. Le feng shui, cela dit en passant, qui signifie le vent et l'eau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'améliorer la circulation de l'énergie dans un environnement donné. Alors Hélène Migerel, c'est une toute autre approche de la spiritualité, on l'a évoqué tout à l'heure, le bouddhisme et d'autres courants alternatifs, donc le vent en poupe. Pourquoi particulièrement cela et moins les confessions traditionnelles?
Les confessions traditionnelles n'apportent pas justement, si vous voulez, cet art de vivre. On n'explique pas aux gens qu'il faut s'arrêter à un certain moment de sa vie et ne rien faire, parce que la société occidentale, avec l'ultramodernisme, a généré cette notion de l'excès. Excès d'espace, excès de temps, excès d'individus, et où les gens sont complètement débordés avec cette volonté de s'enrichir.
Il faut tout toujours consommer.
Voilà, une surconsommation, et on se laisse entraîner sans jamais pouvoir s'arrêter. Changer son fusil d'épaule, c'est un rite initiatique. Et nous retrouvons les rituels là, dans cette philosophie tibétaine. Il y a des personnes qui passent par la dépression pour effectivement toucher le fond et remonter et prendre conscience que cette vie ne peut plus durer.
Ça passe donc par une souffrance au départ, visiblement.
De toute façon, il y a une souffrance. Il y a une souffrance au départ chez l'individu dans son trop-plein. Hein. Et elle dit bien qu'elle était dans un magasin de sport et où elle était effectivement à faire du chiffre, comme s'il fallait remplir un manque permanent, alors qu'on a besoin de manque. Le matin, quand on se réveille, le fait de se mettre devant sa fenêtre, si on a un jardin, et tout simplement de contempler 2 minutes son jardin, de respirer l'air de la rosée dans l'herbe, ça fait un bien fou. On repart régénéré, on peut aller s'habiller. Mais non, on se réveille en retard, on court. Cet excès-là de l'ultramodernisme amène les gens à un moment donné à lâcher prise et à se diriger vers quelque chose de plus doux. Vous savez que dans l'imaginaire occidental, dans notre imaginaire aussi, puisque nous faisons partie de la société occidentale tout en ayant nos caractéristiques. Dans l'imaginaire occidental, l'Orient est quelque chose de plus feutré. Regardez cette fascination envers les gens qui vont un peu plus lentement, qui prennent le temps, non pas de prier, mais tout simplement de se recueillir, de marquer un temps d'arrêt dans cette activité forcenée.
Est-ce qu'il ne faut pas enseigner la spiritualité dès le plus jeune âge?
Les enfants aujourd'hui, vous avez raison, ils ont l'école, mais on leur comble tout temps de libre. Il faut aller au sport à toute vitesse. Il faut pratiquer un instrument de musique à toute vitesse. Le pire, c'est qu'avec tous ces outils informatiques où les enfants sont dans une espèce d'addiction, personne ne prend plus le temps. Donc personne ne prend plus le temps d'écouter personne, de parler à personne. Et ce trop-plein-là, personne ne se retrouve dedans. Parce que personne ne peut se poser, même en vacances. Je dis aux gens, arrêtez la radio. Laissez la télé tomber. Les vacances, retirez-vous, fermez votre portable, arrêtez à un moment. Eh bien non, on assiste aujourd'hui à quelque chose de l'ordre de « on n'en peut plus, on ne se supporte plus, on ne supporte plus les autres ». Et cette philosophie orientale vient à point nommé pour certaines personnes qui sont encore dans cette volonté d'aller beaucoup plus lentement.
Il faut pouvoir y arriver. Enseigner bien comprise cette spiritualité est source de respect et de tolérance, quelles que soient les confessions. Dimitri Zandronis est musulman depuis 20 ans. Il est aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années. Dans l'islam, l'âme est indissociable du corps. Il regrette que les extrémistes qui entachent aujourd'hui sa religion n'aient pas davantage acquis cette spiritualité.
Il faut déjà définir le terme spiritualité qui est en fait, dans la philosophie, je dirais, la séparation de la matière et de l'esprit. Dans l'islam, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'esprit est dans le corps. Le travail que chaque musulman doit faire, c'est un travail qu'il doit faire sur lui pour justement toujours s'améliorer. S'améliorer déjà avec ses voisins, avec sa famille, dans sa pratique. C'est un examen de passage. Et cet examen de passage est très important puisque en fait, c'est ce qui va déterminer la suite. Puisque si on ne réussit pas cet examen de passage, ben, c'est là que les choses vont être difficiles après la mort. Le musulman, il vit aussi avec la mort, dans le sens où pour lui, la mort, ce n'est pas une fin, c'est le début. C'est un peu très rapidement résumé, cette spiritualité, parce que bon, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Mais en tous les cas, notre foi, elle est au centre de tout. On ne peut pas faire une dichotomie entre le religieux et le spirituel. Pour schématiser, c'est un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes à respecter. Et en fonction de la façon dont on agit avec ces principes-là, on va être jugé par Dieu. Mais on n'est pas jugé par les hommes. Aujourd'hui, les extrémistes, ce sont des gens qui ont justement tendance à juger les autres. D'ailleurs, nous, on souffre énormément dans notre chair parce que les premières victimes, ce sont nous, en fait. On est face à des personnes qui n'ont qu'un fondement spirituel et religieux par rapport au texte, en fait. Il est clair qu'aujourd'hui, cette lutte-là, elle est intestine. C'est-à-dire que chez nous, la spiritualité, c'est d'abord personnel. Depuis que je suis converti, ça fait 20 ans maintenant, j'ai senti quelque chose de neuf en moi. C'est-à-dire qu'avant, je vivais. J'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de craintes. Maintenant, je ne me pose pas de questions. Je vis ma foi, en fait. Dans notre vie de tous les jours, nous avons ce qu'on appelle des épreuves. Par exemple, cette année, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans la mesure où j'ai perdu des êtres chers, j'ai eu des difficultés, même au niveau du boulot, etc. C'est vrai que, comme tout le monde, je ressens ça de façon négative, d'un premier abord. Mais après, justement, avec ma spiritualité, j'arrive à m'élever. C'est-à-dire en me disant que cette épreuve-là, en fait, elle est faite pour me renforcer. Il y a un verset du Coran qui dit que Dieu n'envoie à aucune âme ce qu'elle ne pourrait supporter. Donc chaque fois que je passe une épreuve, je considère que c'est un examen et ça marche.
Alors Hélène Migerel, nous sommes de plus en plus dans la quête du bien-être. Les résultats de cette démarche spirituelle sont-ils probants, la plupart des cas?
Que ça dépend du ressenti de chacun et de ce qu'il renvoie par rapport à cette démarche spirituelle. Mais là, dans ce témoignage où il y a quelqu'un qui s'est converti à l'islam, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une primauté accordée à l'expérience personnelle et à la vie spirituelle de chacun. L'inclusion de la santé et du bonheur, ça aussi, ça fait partie de la spiritualité, qui n'est pas forcément séparée du naturel, parce qu'il dit, il a ses croyances, il croit à cet être transcendant. Ce n'est pas séparé du surnaturel non plus. Donc, il y a là une spiritualité, je veux dire, avec cette notion religieuse, mais qui se caractérise par se rapprocher de soi. Se rapprocher de soi pour se rapprocher des autres. Et il dit bien que cette foi nouvelle qu'il a est porteuse d'espoir et lui permet de surmonter les obstacles. Quand on compare cette spiritualité qui est basée sur l'hindouisme, par exemple, l'hindouisme est un système socio-religieux qui ne contredit pas l'idée de religion, mais signifie un fondement cosmique et social, c'est-à-dire qu'il y a une imbrication là des deux. Et aujourd'hui, ces mouvements religieux où les gens en quête de spiritualité se dirigent, ils parlent de quoi? Tout simplement, ils vont parler de mieux-être, de vertu, mais aussi ils permettent aux gens de s'identifier dans un grand tout. Et nous avons aujourd'hui cette floraison de petites cellules comme ça constituées, où les gens vont chercher à la limite quelque chose de l'ordre de la philosophie non religieuse, mais ésotérique, où on propose aux gens de réfléchir sur des expériences symboliques et où l'individu se sent hissé à un certain niveau de connaissances. Ce sont des raisons qui vont mettre l'accent aujourd'hui sur le développement personnel et sur le bien-être des individus.
Y compris dans les entreprises qui proposent des stages et autres formules de développement personnel, c'est devenu aussi un fonds de commerce. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le charlatanisme?
Moi, je me souviens, pour répondre à votre question, je me souviens quand j'étais arrivée ici, on m'avait signalé qu'il y avait dans la région, je pense, de Dé ou de Pointe-Noire, quelqu'un qui était monté sur un rocher et qui se disait prophète. Et la foule a afflué. Ça veut dire tout simplement qu'il y a là une certaine allégeance à toute personne qui a un certain charisme et la prophétie attire. Il y a une certaine dépendance à se soumettre comme ça à des préceptes dont on ne comprend pas bien le fondement.
On parle de plus en plus de développement personnel, vous l'avez évoqué vous-même, mais on peut y mettre ce qu'on veut dans le développement personnel, quitte à manipuler la population, le public visé.
Tout, le coaching. Le coaching est une méthode précise et le coaching est basé sur un apprentissage même du coach. Rien n'empêche aujourd'hui d'ouvrir un cabinet de développement personnel ou de coaching.
Donc c'est le côté sombre aujourd'hui de la spiritualité.
On y met ce qu'on veut. Mais est-ce que la personne qui a une quête de sens, parce que quand on s'engage dans cette spiritualité, c'est une quête de sens. Est-ce que la personne est suffisamment forte pour se dire « ça ne correspond pas à ce que je cherche ?»
Voilà, donc il faut avoir la connaissance, il faut être préparé et il faut avoir le courage de se lancer, d'être en quête, de partir en quête d'une certaine spiritualité.
Oui, je pense qu'ici, il y a suffisamment de personnes portées sur cette question pour qu'on puisse leur demander conseil. Parce que récemment, j'ai reçu un homme qui avait été pris dans les raies de ce que j'appelle une secte vraiment et qui était dans un état de délabrement psychique profond. Donc, il faut faire attention, il faut se dire oui, j'ai besoin d'un coach, mais pourquoi j'ai besoin de ce coach? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'un coach? Demander. J'ai besoin de développement personnel, une introspection sur moi-même. Je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, mais je dis que les gens devraient avoir beaucoup plus de discernement parce qu'au lieu d'atteindre justement ce niveau de spiritualité, d'épanouissement, quelquefois il vacille encore plus.
Merci à vous Hélène Migerel. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Merci aussi aux auditeurs pour leur fidélité.
C'est moi qui vous remercie Madame Borda.
Guadeloupe Première. Première.